Nikolaï Vassilievitch Gogol, ménage d'autrefois. J'apprécie fort le modeste train de vie que mènent dans leur domaine retiré les gentilshommes à la mode d'autrefois, comme on les appelle d'ordinaire en petite Russie. Ces gens-là me rappellent les vieilles demeures pittoresques, dont la simplicité vous attire par le contraste qu'elles présentent avec les édifices tout flambant neufs, dont la pluie n'a pas encore souillé les murs, ni le moisi attaqué les toits, et dont le perron crépi de frais ne laisse pas encore voir ses briques rouges. J'aime parfois m'abandonner à cette vie placide, m'égarer dans cette solitude sans nom. Là, nul désir ne dépasse la palissade de la courette, la haie de la pommeraie, les chaumières du village penchées sur le flanc et perdues parmi les saules, les sureaux et les poiriers. La vie de ces petites gens s'écoule si quiète, si paisible, que, dans un instant d'oubli, on se prend à mettre en doute l'existence des passions, des désirs, des vaines agitations qu'engendre l'esprit du mal pour troubler le monde. Tout cela, croit-on, n'est que le produit d'un rêve, qu'une étincelante fantasmagorie. Je vois d'ici la petite maison basse et la galerie aux minces colonnettes de bois noirci qui en fait le tour, afin qu'on puisse, par temps d'orage et de grêle, fermer les volets sans craindre la pluie. Par derrière, le bosquet de merisiers odorants, les longues rangées d'arbres fruitiers et nains noyés dans le pourpre des cerises, et la mer d'améthyste des prunes au duvet plombé, l'érable touffu avec le tapis de repos étendu sous son ombre, par devant la cour spacieuse, son herbe courte et verdoyante, le sentier qui mène du cellier à la cuisine, de la cuisine au logis des maîtres, l'oie à long col qui s'abreuve dans une flaque en compagnie de ses oisillons tout joyeux, tout frêles, la palissade où pendent des chapelets de pommes et de poires tapés, où s'étalent des tapis mis à l'air, et près de la grange un bœuf dételé qui se vautre auprès d'une charte de melons. Ce tableau a pour moi un charme inexprimable, parce que je ne le vois pas sans doute et que toutes les choses dont nous sommes séparés nous sont chères. Je ne sais, mais que ma britchka approcha de cette maison, j'éprouvais aussitôt un délicieux sentiment de quiétude. Les chevaux s'arrêtaient tout joyeux devant le perron, le cocher descendait lentement du siège et se mettait à bourrer sa pipe comme s'il fût arrivé devant son propre logis, et même l'aboiement flegmatique des roquets, barbets et matins n'était pas sans flatter mon ouïe. Mais ce que je préférais dans ces modestes recoins, c'étaient les maîtres du vieux, de bonnes vieilles gens, qui s'empressaient à ma rencontre et qui, parfois, se présentent encore à mon esprit parmi les habits à la mode dans le tumulte et le luxe du monde. Je m'abandonne alors à la rêverie, je me prends au mirage du passé. Tant de bonhomie, tant de franchise se lient sur leur visage qu'on renonce volontiers, du moins pour un certain temps, à toute pensée d'ambition et que, sans y prendre garde, on se donne tout entier à cette humble vie bucolique. Je ne puis pas oublier deux petits vieux du siècle passé. Ils ne sont plus de ce monde, hélas, mais la pitié me gagne et j'éprouve toujours au cœur un serrement bizarre, en songeant que si le sort m'amène quelques jours devant leur domaine abandonné, je découvrirai peut-être, au lieu de chaumière, un morceau de décombre, un marécage à la place de l'étang, et sur l'emplacement de leur demeure, une douve envahie par les ronces et rien de plus. Oui, il me suffit d'y penser pour que je me sente triste, affreusement triste à l'avance. Mais commençons notre récit. Les deux vieillards dont j'ai entrepris l'histoire avaient pour nom Athanase Ivanovitch et Pulkeri Ivanovna Tovtogoub. Si j'étais peintre et que je voulusse représenter Philémon et Baucis, je ne choisirais pas d'autre modèle. Athanase Ivanovitch pouvait avoir 60 ans, Pulkeri Ivanovna 55. De haute taille, constamment vêtu d'une peau de mouton recouverte de tissu camelot, Athanase Ivanovitch aimait à être assis courbé et souriait presque toujours, soit qu'il racontât quelque histoire, soit qu'il se bornât à écouter. Pulcheria Ivanovna était plutôt sérieuse. Elle riait bien rarement, mais on lisait tant de bonté dans ses yeux et sur toute sa figure, on y devinait un tel empressement à vous offrir ce qu'elle avait de meilleur, qu'à n'en pas douter, un sourire eût mis une note de fadeur sur cette bonne physionomie. Les légères rides de leur visage étaient disposées avec tant de grâce qu'un peintre en eût aussitôt fait son profit. Elle laissait deviner leur vie calme et sereine, la vie que menaient chez nous les gens de la vieille roche, simples en dépit de leur richesse et qui toujours formèrent le plus parfait contraste avec ces petits Russes de bas étage, goudronniers ou porte-balles, qui s'abattent comme un vol de sauterelles sur les emplois publics, extorquent jusqu'au dernier sou à leurs propres compatriotes, inondent Pétersbourg de chicanous, amassent enfin la forte somme et ajoutent en signe de triomphe le V russe à l'eau finale de leur nom. Certes, ils ne se ressemblaient point à ces odieux faquins, mes deux braves amis, pas plus d'ailleurs qu'aucune de nos bonnes vieilles familles. On ne pouvait voir, sans en être touché, leur mutuelle affection. Ils ne se tutoyaient jamais, se disaient toujours vous. Vous, Athanase Ivanovitch, vous, Pulcheria Ivanovna. C'est vous qui avez défoncé cette chaise, Athanase Ivanovitch. Bagatelle, Pulcheria Ivanovna, ne vous fâchez pas, oui, c'est moi-même. Et faute d'enfants, ils avaient concentré l'un sur l'autre toute leur tendresse. Autrefois, dans sa jeunesse, Athanase Ivanovitch avait servi dans la cavalerie légère. Il avait même été major en second, mais tout cela était bien loin, et de si loin qu'il n'y avait presque plus jamais allusion. Athanase Ivanovitch s'était marié à l'âge de 30 ans, alors qu'il était beau garçon et portait l'habit brodé. Il avait même enlevé, avec assez d'adresse, Pulcheria Ivanovna, dont les parents ne le voulaient point pour gendre. Mais de cela non plus ne se souvenait guère, du moins n'en parlait-il jamais. Ses aventures de jadis avaient cédé la place à une vie calme et retirée, à ces rêveries confuses, mais point dénuées d'harmonie, qui vous surprennent assis sur le balcon de votre jardin, alors que, tombant de rue sur les arbres, s'écoulant en ruisselets babillards, une belle pluie mène son bruit somptueux, invite tout votre être au sommeil, cependant que l'arc-en-ciel s'insinue à travers le feuillage pour étaler sur le ciel la voûte croulante de ses 7 couleurs mates. Ou bien encore, quand en vaine steppe, vous vous avez laissé bercer par votre calèche qui plonge en une mer de verdure, par le court caillet de la caille, par le chatouillement délicieux des herbes folles, des épis, des fleurs champêtres, qui vous fouillent les mains et le visage à travers la portière. Pour les gens qui le venaient visiter, Athanase Ivanovitch avait toujours l'oreille attentive et le sourire gracieux. S'il prenait parfois la parole, c'était le plus souvent pour poser des questions. Il n'était pas de ces vieillards qui vous obsèdent de louanges au temps passé et de critiques au présent. Bien au contraire, il montrait dans ses questions qu'il prenait un grand intérêt aux circonstances de votre propre vie, à vos succès, à vos rêves, curiosité commune en tout à celle d'un enfant qui, tout en vous parlant, considère les breloques de votre montre. Dans ces moments-là, son visage respirait vraiment la bonté. Comme il est d'usage chez les gens d'autrefois, nos vieillards habitaient un logis aux pièces petites et basses et dont un énorme poêle occupait presque le tiers. On étouffait dans ces chambrettes, car Athanase Ivanovitch et Pulcheria Ivanovna aimaient beaucoup la chaleur. Toutes les portes des poêles donnaient dans l'antichambre, toujours remplies de paille, presque jusqu'à la hauteur du plafond. En petite Russie, la paille remplace le bois de chauffage. Son feu pétillant et clair rend les antichambres très agréables pendant les soirées d'hiver, alors que les jeunes gens, transis d'avoir couru sur les traces de quelque gaillarde, s'y précipite en battant des mains. Quelques tableaux, quelques estampes dans de vieux cadres étroits décoraient les murs de la pièce d'apparat. Les maîtres du logis, j'en suis sûr, avaient depuis longtemps oublié le sujet de ces tableaux, et si l'on avait emporté quelques-uns, ils n'auraient sans doute point remarqué leur disparition. Il y avait entre autres deux grands portraits à l'huile dont l'un représentait un prélat et l'autre l'empereur Pierre III. Dans un cadre exigu, une duchesse de la Vallière, toute souillée par les mouches, vous regardait de ses yeux fixes. Une foule de ces petites gravures que l'on s'habitue insensiblement à considérer comme des taches sur le mur, et auxquelles pour cela on ne prête plus d'attention, décoraient le pourtour des fenêtres et le dessus des portes. Dans presque toutes les pièces, le plancher était de simple terre battue, mais il reluisait toujours et sa propreté eût fait envie à n'importe lequel de ces parquets de luxe que balaye la main nonchalante d'un monsieur en livrée, à peine arraché au sommeil. Une multitude de coffres et de caisses, de boîtes et de coffrets encombrait la chambre de Pulcheria Ivanovna. Une multitude de sacs et de sachets contenant toutes sortes de graines, graines de fleurs, graines de légumes, graines de pastèques, étaient suspendues au mur. Des pelotes de laine de toutes couleurs, des monceaux de chiffons, des frocs d'un demi-siècle s'amoncelaient dans les recoins des coffres et dans les intervalles entre les coffres. La bonne dame était grande ménagère et ramassait tout, sans savoir parfois à quoi cela pourrait servir. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable dans ce logis, c'était le chant des portes. Dès le matin, ce chant retentissait dans toute la maison. Je ne saurais pas dire pourquoi elle chantait ainsi. Les gonds en étaient-ils rouillés? L'ouvrier qui les avait faites y avait-il caché quelque mécanisme secret? Toujours est-il que chaque porte avait son chant particulier. La porte de la chambre à coucher possédait une voix de ténor aigu. Celle de la salle à manger, une voix rauque de basse. Celle de l'antichambre rendait un son étrange, fêlé, plaintif, si bien qu'en prêtant l'oreille, on finissait par discerner clairement. Pauvre de moi, je suis gelé. Et beaucoup de personnes, je le sais, détestent le cri des portes, mais quant à moi, j'en raffole. Qu'il m'advienne de l'entendre, je me crois aussitôt à la campagne. Je revois la petite chambre basse qui éclaire une chandelle fichée dans un antique chandelier. Le souper est servi, la sombre nuit de mai qui vous regarde par la fenêtre ouverte sur le jardin. J'entends les roulades du rossignol qui planent sur le parc, sur la maison et jusque sur la rivière lointaine. Je perçois le murmure angoissant des branches. Oh mon Dieu, quelle longue file de souvenirs m'assaille! Il y avait dans la grande pièce des chaises de bois massifs, comme on les faisait autrefois, avec de hauts dossiers travaillés autour, sans couleur ni vernis. Elles n'étaient même pas rembourrées et rappelaient vaguement les sièges dont se servent encore nos prélats. On y voyait aussi quelques guéridons d'angle, une petite table carrée devant le canapé, une autre devant la glace encadrée d'un mince feuillage doré que les mouches avaient marqueté de points noirs, et toujours devant le canapé, un tapis dont le dessin offrait des oiseaux semblables à des fleurs et des fleurs semblables à des oiseaux. Telle était, ou peu s'en faut, la modeste parure du logis de mes bons vieux. Un essaim de filles en jupons rayés, tant jeune que vieille, bourdonnait dans la chambre des servantes. Pulcheria Ivanovna leur donnait des bagatelles à coudre, des fruits à éplucher. Mais le plus souvent, elles se sauvaient à la cuisine pour y dormir à leur aise. Pulcheria Ivanovna croyait de son devoir de les tenir près d'elle et de surveiller leur conduite. Mais à sa grande surprise, il se passait peu de mois sans que la taille de quelqu'une de ses filles ne devînt plus ample qu'à l'ordinaire. Et cela semblait d'autant plus étonnant qu'il n'y avait point de célibataire dans la maison, à part certain galopin, lequel s'en allait toujours pieds nus, mais affublé d'un frac gris et passait à dormir le temps qu'il n'employait pas à manger. Alors dans ces occasions, Pilkéry tançait la coupable et lui enjoignait que cela n'arrivât plus. Une horde de mouches battait sans cesse les vitres. La basse profonde d'un frelon dominait leur tintement, qu'accompagnait parfois le sifflement aigu des guêpes. Mais dès qu'on approchait de la lumière, toute la troupe songeait à la nuitée et dérobait le plafond au regard sous un épais nuage noir. Les travaux des champs préoccupaient assez peu Athanase Ivanovitch. Cependant, il daignait parfois visiter ses faucheurs ou ses moissonneurs et les regardait faire avec une attention assez soutenue. Le fardeau des affaires reposait en entier sur Pulkéry Ivanovna. Ce fardeau consistait à ouvrir et à fermer continuellement le cellier, à cuire, saler, sécher, fruits, feuilles et légumes en quantités innombrables. Sa maison ressemblait en tout point à un laboratoire de chimiste. Un feu sempiternel était allumé sous un pommier du jardin. Au-dessus de ce feu, un trépied de fer supportait presque toujours un chaudron ou une bassine de cuivre avec des confitures, des gelées, des pâtes accommodées au miel, au sucre et je ne sais plus à quoi. Sous un arbre, le cocher distillait de l'eau-de-vie sur des feuilles de pêcher, des fleurs de merisier ou de centaurée, des noyaux de cerises. Et à la fin de cette opération, il n'était plus en état de remuer la langue, barbotait des mots auxquels Pulkéry Ivanovna ne comprenait goutte, et s'en allait faire un somme à la cuisine. Il se cuisait, se salait, se séchait une telle profusion de ces drogues qu'elles auraient fini par envahir toute la cour. Car, en plus de ses besoins, la bonne dame aimait à se constituer une réserve. Si une bonne moitié d'entre elles n'eût été dévorée par les servantes, quand celles-ci se faufilaient dans le garde-manger, elles s'y gavaient à tel point qu'elles en avaient ensuite, pour une bonne journée, à gémir et à se plaindre de maux d'estomac. Pulkéry Ivanovna ne pouvait guère entrer dans les détails du ménage des champs, et leur intendant et starost friponnaient sans vergogne. Ces dignes compères avaient pris l'habitude de traiter comme leurs biens propres les bois de leur seigneur. Ils faisaient fabriquer des traîneaux qu'ils vendaient à la foire la plus proche. Ils débitaient aussi les gros chênes dont les cosaques du voisinage se bâtissaient des moulins. Une seule et unique fois, Pulkéry Ivanovna exprima le désir d'inspecter ces bois. On lui attela un drotchki qu'enveloppait un énorme tablier de cuir, et dès que le cocher secouait les guides pour faire mouvoir ses chevaux qui avaient fait campagne dans la milice, cette guimbarde remplissait l'air de bruits étranges où l'on discernait soudain le son de la flûte et le son du tambour. Chaque crampon, chaque écrou grinçait si bruyamment que du moulin, si à deux bonnes verses de distance, on entendait la bonne dame se mettre en route. Pulkéry Ivanovna devait forcément apercevoir les coupes sombres pratiquées dans ses bois et la disparition des chênes que dans son enfance elle avait connues déjà séculaires. « Pourquoi donc, dit Chipor, demanda-t-elle à l'intendant qui l'accompagnait, pourquoi donc les chênes sont-ils devenus si clairsemés ? Prends garde que tes cheveux ne le deviennent aussi. » Clairsemé, allez, répondit-elle au bonhomme. Oh, c'est qu'ils ont disparu, mais oui, notre dame, tout à fait disparu. La foudre est tombée dessus, et les vers les ont rongés. Enfin, que voulez-vous, notre dame? Ils ont disparu, tout à fait disparu. Cette réponse satisfit pleinement Pulkéry Ivanovna. Rentrée à la maison, elle donna seulement l'ordre de doubler la garde dans le verger, autour des griotiers et des grands poiriers d'hiver. Ces dignes administrateurs, l'intendant et le starost, trouvèrent inutile d'emmagasiner toute la farine. Les maîtres se contenteraient bien de la moitié. Ils en virent même à choisir cette moitié parmi la farine, moisie ou mouillée, qu'on leur refusait à la foire. Ainsi donc nos deux gaillards rapinaient effrontément. Toute la maisonnée s'adonnait à la goinfrerie, depuis la ferme de charge jusqu'au pourceau qui baffrait des tas de prunes et de pommes et parfois même donnait du groin contre un arbre pour en faire tomber une pluie de fruits. Moineaux et corbeaux becquetaient à qui mieux mieux. Les domestiques portaient fort ce cadeau à leurs bons amis des villages voisins et dérobaient même de vieilles pièces de toile ou des paquets de liards, filasses, qui s'en allaient à la source de toutes choses, autrement dit au cabaret. Leurs dignes invités, cochers et laquais flegmatiques, maraudaient tant et plus, et malgré tout cela, cette terre de bénédiction se montrait si fertile et ses heureux possesseurs si modérés dans leurs besoins que toutes ces déprédations passaient inaperçues. Comme tous les gens d'autrefois, nos deux vieillards étaient un peu portés sur leur bouche. Dès que pointait l'aurore, car ils étaient fort matineux, dès que les portes faisaient entendre leur concert discordant, ils s'attablaient et prenaient leur café. Athanase Ivanovitch passait ensuite dans l'antichambre, franchissait le seuil et disait en brandissant son mouchoir « Pssst, voulez-vous bien vous sauver, les pois ?» Et une fois dans la cour, il se heurtait d'ordinaire à l'intendant avec lequel il entrait en conversation. Il interrogeait par le menu sur les travaux des champs, lui communiquait de telles remarques, lui passait de tels ordres, qu'en entendant, chacun eut donné son habileté à faire valoir et qu'un béjaune se fût même refusé à croire qu'on pouvait duper un maître aussi clairvoyant. Mais l'intendant, vieux routier, savait de quelle manière répondre et mieux encore de quelle manière agir. Après quoi, Athanase Ivanovitch regagnait le logis et disait en s'approchant de sa femme « Que vous ensemble, Pulchre Ivanovna, ne serait-il pas temps de manger quelque chose ?» « Mais que pourrait-on bien manger maintenant, Athanase Ivanovitch ? Des galettes au lard ou des petits pâtés à la graine de pavot ou encore des oranges salées ?»« Va pour les oranges salées et les petits pâtés, » répondait Athanase Ivanovitch. Et la table aussitôt se couvrait d'une nappe sur laquelle apparaissaient oranges et petits pâtés. Une heure avant de dîner, Athanase Ivanovitch cassait encore la croûte. Il avalait une bonne portion d'eau-de-vie dans un antique gobelet d'argent et la faisait passer à l'aide de champignons, de petits poissons séchés et d'autres abats fins. On dînait à midi. Outre les plats et les saucières, la table supportait une quantité de petits pots hermétiquement clos afin que l'appétissant fumet de la vieille cuisine ne pût s'évaporer. Pendant le repas, la conversation roulait le plus souvent sur des sujets intimement liés à cette grande affaire. « Il me semble, » commençait d'ordinaire Athanase Ivanovitch, « il me semble que ce sarrasin est un peu brûlé. Qu'en pensez-vous, Pulchre Ivanovna ?»« Mais non, Athanase Ivanovitch, mettez-y un peu plus de beurre, il vous paraîtra plus brûlé. » Ou, si vous préférez, versez par-dessus un peu de cette sauce aux champignons. Soit, répondait Athanase Ivanovitch en lui donnant son assiette. Voyons ce que cela donnera. Après le dîner, Athanase Ivanovitch s'en allait faire la sieste. Au bout d'une heure, Pulchre Ivanovna lui apportait une pastèque coupée en tranches et disait goûtez donc cette pastèque, Athanase Ivanovitch. « Vous verrez comme elle est bonne. »« Mais le cœur en est rouge à souhait, mais ne vous y fiez pas, Pulchre Ivanovna, » rétorquait Athanase Ivanovitch en prenant une tranche de grosseur raisonnable. « Il y en a qui parfois sont bien rouges et qui cependant valent rien. » Mais la pastèque avait au fait de disparaître. Quelques poires lui succédaient, puis nos deux époux faisaient un tour de jardin. De retour au logis, Pulchre Ivanovna vaquait à ses affaires, tandis que son mari, installé sous l'auvent, face à la cour, considérait le cellier, lequel s'ouvrait et se refermait sans cesse, livrant passage aux servantes qui, se poussant l'une l'autre, apportaient et remportaient toutes sortes de brouilles dans des cassettes, des tamis, des corbeilles et d'autres récipients encore. Au bout d'un certain temps, il envoyait guérir Pulcheri Banovna, ou bien l'allait la trouver lui-même, et il lui disait « Ben, que pourrais-je bien manger, Pulcheri Banovna ?»« Non, c'est trop rien, » répliquait celle-ci. « Voulez-vous que je vous fasse servir les tartelettes aux fraises et à la crème que j'ai mises de côté, exprès pour vous ?»« Va pour les tartelettes, » répondait Athanase Ivanovitch. Ah, vous préférez peut-être de la gelée de fruits. Oh, va pour la gelée de fruits, répondait Athanase Ivanovitch. Et sur le champ, on apportait toutes ces bonnes choses, qui, bien entendu, ne faisaient pas long feu. Avant le souper, Athanase Ivanovitch prenait encore une légère collation. À 9h30, le souper était servi. Dès le lever de table, on allait dormir et le silence le plus profond régnait dans ce petit coin de terre si actif et si tranquille à la fois. Il faisait dans la chambre à coucher une chaleur si torride que bien peu de personnes eussent pu y demeurer quelques heures. Cependant, pour avoir plus chaud encore, Athanase Ivanovitch couchait sur le poêle, dont la haute température le forçait à se lever plusieurs fois pendant la nuit et à se promener de long en large dans la pièce. Au cours de ses promenades, il lui arrivait de gémir. « Qu'avez-vous donc à gémir, Athanase Ivanovitch ?» s'informait dans ces cas-là Pulcheri Ivanovna. « Bien, seul le sait, Pulcheri Ivanovna. Il me semble que j'ai un peu mal à l'estomac, » répondait Athanase Ivanovitch. Mais vous feriez peut-être mieux de prendre quelque chose, Athanase Ivanovitch. Croyez-vous, Pulcheri Ivanovna? Après tout, pourrait-on bien prendre? Bien du lait caillé ou de la compote de poire tapée. Soit, on peut toujours essayer, acquiesçait Athanase Ivanovitch. Une servante, tirée du sommeil, allait fouiller dans les armoires. Athanase Ivanovitch mangeait une pleine assiettée, après quoi il avait coutume de dire « Ah, il me semble que je vais un peu mieux. » Parfois, quand le temps était serein et le logis bien chaud, Athanase Ivanovitch, mis en joie, se laissait aller à badiner au dépens de Pulcheri Ivanovna. Il abordait dans ce dessin quelques sujets d'ordre plus général. « Voyons, Pulcheri Ivanovna, lui demandait-il, si notre maison venait à brûler, que deviendrions-nous ?»« Mais que Dieu nous garde, à quoi pensez-vous ? » s'exclamait Pulcheri Ivanovna en faisant le signe de la croix. « Mais enfin, supposons qu'elle vienne à brûler, où trouverions-nous refuge ?»« Mais Dieu sait ce que vous dites, Athanase Ivanovitch, mais comment notre maison pourrait-elle brûler ?» « Le bon Dieu ne le permettra pas. »« Mais si pourtant elle brûlait ?»« Eh bien, nous passerions dans le bâtiment de la cuisine. »« Vous prendriez la chambre de la femme de charge. »« Et si la cuisine brûlait aussi ?»« Ben alors, donc la maison et la cuisine brûleraient, mais mon Dieu, mais Dieu ne le permettra jamais. »« Dans ce cas-là, ben, nous nous installerions dans les communs en attendant que la maison soit reconstruite. » « Ben oui, mais si les communs brûlaient également ?»« Oh, qu'est-ce que vous dites? Je ne peux plus vous entendre. Savez-vous que c'est un péché de parler de la sorte et que le bon Dieu ne laisse pas impuni les pareils propos ?» Mais Athanase Ivanovitch, satisfait de son innocente raillerie, souriait doucement, immobile sur sa chaise. C'est quand il recevait des visites que j'aimais surtout mes bons vieux. Tout dans leur logis prenait alors un autre aspect. Ces braves gens se donnaient corps et âme à leurs invités. Ce qu'ils avaient de meilleur, ils le faisaient apporter. Ils luttaient d'empressement à offrir les produits de leur terre. Il n'entrait d'ailleurs, et c'est ce qui me plaisait le plus, aucune affectation dans ces prévenances. Une cordialité si touchante se peignait sur leurs visages qu'aucun invité ne pouvait se dérober à leurs instances. On sentait trop bien qu'ils cédaient à l'élan de leur cœur. Ah ! Il y a loin de cette franche bonhomie à l'obséquiosité écœurante d'un commis de finance parvenu qui vous reçoit en vous traitant de bienfaiteur et en rampant à vos pieds. Jamais il ne laissait un visiteur partir le jour même de sa venue. On le contraignait à passer la nuit. Mais comment vous voulez déjà partir à une heure si tardive et pour une aussi longue route ? Disait immuablement Pulcheria Ivanovna. Bien que le visiteur n'habitât le plus souvent qu'à une petite lieue de chez eux. « bien sûr, » insistait de son côté Athanase Ivanovitch. « C'est au jamais ce qui peut arriver. Vous pouvez rencontrer des voleurs ou quelques du mieux mal intentionnés. »« Que Dieu vous garde des voleurs, » reprenait Pulcheria Ivanovna. « Pourquoi compter de pareilles choses à la tombée de la nuit ? Il n'est pas question de voleurs, mais il fait sombre. » C'est pas un beau moment pour voyager. Et votre cocher, je le connais, oh, votre cocher, il est si petit, si malin qu'il ne viendrait pas à bout d'une génisse. D'ailleurs, soyez sûr qu'à cette heure-ci, il cuve son vin quelque part. Et le visiteur se voyait contraint de rester. D'ailleurs, une soirée passée dans une petite chambre douillette, le ronron berceur de propos pleins de chaleur et de bonhomie, le fumet d'un souper substantiel accommodé de main de maître payait largement sa complaisance. Il me semble voir Athanase Ivanovitch courbé sur sa chaise, son éternel sourire aux lèvres, écoutant avec attention, avec jouissance même, les discours de son hôte. La conversation tombait souvent sur la politique. Le visiteur, qui lui non plus ne quittait guère son manoir, prenait une mine grave et un ton de mystère. Il se livrait à des conjectures, prétendait que les Anglais et les Français s'étaient secrètement concertés pour lâcher de nouveau Bonaparte en Russie, ou affirmait tout bonnement que la guerre allait éclater. Alors Athanase Ivanovitch avait coutume de dire, en affectant de ne pas regarder Pulcheria Ivanovna, « Moi, j'ai moi-même l'intention d'aller à la guerre. Pourquoi n'irais-je pas à la guerre ?»« Ah, alors, le voilà parti !» l'interrompait Pulcheria Ivanovna. « On ne prenait pas attention à ce qu'il dit, » ajoutait-elle en s'adressant à leur invité. « Le voyez-vous faire la guerre à son âge ?» Mais le premier soldat venu le tuerait, ou bien sûr il le coucherait en joue et le tuerait. À moins, répliquait Athanase Ivanovitch, que ce soit moi qui le tue. Écoutez le dire, reprenait Pulcheria Ivanovna, mais qu'irait-il faire à la guerre, jusqu'à ses pistolets qui sont rouillés et mis au rencard. Oh, si vous les voyez, il lui éclaterait bien certainement dans les mains et le défigurerait. « Qu'à cela ne tienne, disait Athanase Ivanovitch, je m'achèterai de nouvelles armes et je prendrai un sabre ou une lance de cosaque. » Voilà de belles inventions. Oh, quand il lui vient une idée en tête, on ne peut plus l'arrêter, s'offusquait Pulcheria Ivanovna. J'ai beau savoir qu'il plaisante, ça n'en est pas moins désagréable à entendre. Il est toujours comme ça. Parfois, fort de l'écouter, la peur me prend. Mais Athanase Ivanovitch, satisfait d'avoir quelque peu effrayé Pulcheria Ivanovna, souriait doucement, courbé sur sa chaise. Jamais Pulcheria Ivanovna ne m'amusait tant qu'à l'heure du souper, quand elle menait son hôte vers la crédence où étaient disposés les hors-d'œuvre. Voici, disait-elle en débouchant un carafon, voici de l'eau-de-vie de mille feuilles et de sauge. Excellent remède contre les maux d'épaule et de reins. Voici de l'eau de vie de centaurée, oh, souveraine contre les dartres et les bourdonnements d'oreilles. Et voici de l'eau de noyau, prenez-en donc un petit verre. Quelle bonne odeur, n'est-ce pas? Et si quelqu'un, en se levant, donne du front contre l'angle d'une table ou d'une armoire, et qu'il se fasse une bosse, un petit verre de cette eau de vie avant le dîner lui enlèvera son mal, séance tenante. Elle passait ensuite en revue les autres ratafias qui, presque tous, possédaient quelques vertus curatives. Quand elle avait bien lesté son hôte de toutes ces mixtures, elle passait au solide et désignant un bataillon d'assiettes. Voilà, disait-elle, des champignons serpolets. Et voici d'autres aux clous de girofle et aux noix de Valachie. Je tiens la recette d'une turque à l'époque où nous avions ici des prisonniers de cette nation. C'était une bien brave femme, et l'on ne s'apercevait pas le moins du monde qu'elle fût de la religion turque. Elle faisait presque tout comme nous, sauf qu'elle ne mangeait point de la viande de porc. Allons croire c'est défendu par leur loi. Ah, voilà encore des champignons aux feuilles de cassis et à la noix de muscade. Ah, et ça, ce sont des courges marinées. C'est la première fois que j'en fais. Je ne sais pas si cela vous plaira. C'est le père Ivan qui m'a appris à les préparer. On prend un petit baril, on y met d'abord une couche de feuilles de chêne, puis du poivre et du salpêtre, puis des fleurs de queue de rat, que l'on range les queues en l'air. Ah, voilà enfin des petits pâtés. Ceux-ci sont au fromage, ceux-là à la caillebotte. Ah, en voici d'autres au chou et au sarrasin. Ce sont celles que préfère Athanase Ivanovitch. C'est vrai, continuerait Athanase Ivanovitch. Je les aime beaucoup. Ils sont tendres et un peu aigrelets. Bref, Pulcheria Ivanovna était toujours de parfaite humeur quand elle avait des invités. La brave femme leur appartenait tout entière. J'aimais fort faire visite aux deux époux. Comme tout le monde, je me donnais chez eux des indigestions, et cependant, j'y retournais avec plaisir. Au reste, je me demande si en petite Russie, l'air même ne serait point propice à la digestion. Qui s'adonnerait ici à de pareilles ripailles risquerait fort d'être bientôt étendu, non point dans son lit, mais sur la table. Ah, les bonnes, les excellentes vieilles gens! Mais j'arrive maintenant à une fort triste aventure qui bouleversa à tout jamais cette paisible retraite et qui frappera d'autant plus que la cause en fut bien futile. Par un bizarre arrangement des choses, d'imperceptibles causes ont toujours engendré de grands événements, tandis que les grandes entreprises n'avaient que d'insignifiants résultats. Un conquérant rassemblant toutes ses forces fait la guerre pendant plusieurs années, ses capitaines se couvrent de gloire, et tout cela se termine par l'acquisition de quelques arpents où l'on saurait à peine planter les pommes de terre. Mais qu'un faiseur de saucisses en vienne aux mains à propos de bottes avec un confrère d'une autre ville. Aussitôt leur querelle met le feu aux deux villes, puis au bourg, puis au village, et bientôt au pays tout entier. Mais laissons là ces propos élevés. Ce n'est point ici leur place, et par ailleurs, je n'aime pas les considérations qui ne sont que des considérations. Pulcheria Ivanovna avait une petite chatte grise qui se tenait presque toujours roulée en boule à ses pieds. Elle se plaisait parfois à la caresser, elle lui chatouillait le cou, que la friponne étirait à n'en pouvoir plus. Ce n'est pas qu'elle l'aimât beaucoup, mais par habitude de l'avoir constamment, elle s'était attachée à la petite bête. Cette affection offrait pourtant matière aux railleries d'Athanase Ivanovitch. Mais c'est vraiment pas, Pulcheria Ivanovna, ce que vous trouvez de bon dans cet animal. À quoi un chat peut-il servir? Ah, si vous aviez un chien, ce serait une autre affaire. On pourrait l'emmener à la chasse, mais un chat. Vous feriez mieux de vous taire, hein, Athanase Ivanovitch, répondait Pulcheria Ivanovna. Il faut toujours que vous disiez quelque chose. Un chien, c'est une bête malpropre. Un chien, cela gâte et casse tout. Un chat, au contraire, c'est une gentille créature qui ne fait de mal à personne. Au reste, Athanase Ivanovitch se soucie tout aussi peu de chien que de chat. Ce qu'il leur disait, c'était tout bonnement pour taquiner Pulcheria Ivanovna. Derrière le jardin s'élevait un grand bois que l'entrepreneur régisseur avait jusqu'alors épargné, craignant sans doute que le bruit des cogniers ne parvînt aux oreilles de Pulcheria Ivanovna. Ce bois était touffu, sombre, abandonné. D'épais buissons de coudriers masquaient les vieilles souches, leur donnant une vague ressemblance avec les pattes velues des pigeons. Des chats sauvages le hantaient. Il ne faut pas confondre les chats sauvages avec les braves à trois poils qui vagabondent sur les toits. En dépit de leur manière brusque, ces habitants des villes sont beaucoup plus civilisés que les hôtes des grands bois. En gens, le plus souvent sombres et farouches, toujours affamés, toujours décharnés, aux miaulements rudes et primitifs. Ces garnements creusent parfois des galeries souterraines par lesquelles ils s'insinuent dans les sols liés pour y border du lard. Ils poussent l'audace jusqu'à sauter brusquement dans les cuisines par la fenêtre ouverte quand ils s'aperçoivent que le cuisinier est allé faire un tour. Ils ignorent tout sentiment généreux, vivent de rapines et étouffent les moineaux dans leur nid. À travers la route souterraine du cellier, ces matous s'abouchèrent avec la petite chatte de Pulcherie Ivanovna, qui bientôt se laissa séduire par eux comme une nièce de village par une troupe de soldats. Elle disparut. Sa maîtresse la fit rechercher, mais on ne la trouva nulle part. 3 jours se passèrent. Après quelques regrets, Pulcherie Ivanovna finit par l'oublier. Un jour, qu'ayant fait l'inspection de son potager, elle apportait à Athanatas Ivanovitch des concombres cueillis de sa propre main. Un miaulement désolé frappa son ouïe. Comme d'instinct, elle prononça « Minet, Minet, Minette !» Et soudain, sortit des broussailles sa petite chatte grise, toute maigre, toute défaite. Elle n'avait évidemment rien mangé depuis plusieurs jours. Pulcherie Ivanovna l'appelait toujours. La chatte immobile miaulait, mais n'osait approcher, tant elle était devenue sauvage. Pulcherie Ivanovna se remit en marche, continuant ses appels. La chatte la suivit, toute craintive, jusqu'à la palissade, puis quand elle eut reconnu les lieux, elle se décida à pénétrer dans la maison. Pulcherie Ivanovna lui fit aussitôt donner du lait et de la viande. Assise devant sa pauvre favorite, elle se délectait à la voir laper son lait et dévorer morceau sur morceau. La grise fugitive paraissait grossir à vue d'œil. Elle ne mangeait déjà plus avec autant de voracité. Pulcherie Ivanovna étendit la main pour la caresser, mais l'ingrate avait sans doute trop pris goût à la société des chats sauvages, ou bien elle s'était entichée auprès de ces frangueux de la maxime romanesque qu'amour et gueuserie passent richesse et solitude, qu'elle sauta par la fenêtre et personne ne put l'attraper. La bonne vieille se prit à songer. « C'est ma mort qui est venue me chercher, » décida-t-elle. Et toute la journée, cette pensée l'absorba, rien ne put l'en distraire. En vain, Athanase Ivanovitch voulut-il plaisanter et connaître les raisons de cette soudaine mélancolie. Pulcherie Ivanovna demeurait muette ou donnait des réponses qui ne pouvaient le satisfaire. Le lendemain, elle avait beaucoup maigri. « Qu'avez-vous donc, Pulcherie Ivanovna? Seriez-vous malade ?»« Non, je ne suis pas malade, Athanase Ivanovitch, mais il faut que je vous prévienne d'un événement d'importance. Je mourrai cet été, je le sais. Ma mort est déjà venue me prendre. »
Les lèvres d'Athanase Ivanovitch eurent un pli douloureux, mais réprimant son chagrin, il s'efforça de sourire.
Bon, « vous ne savez pas ce que vous dites, Pulcherie Ivanovna. Au lieu de votre infusion habituelle, vous aurez pris par mégarde de l'eau de noyau. »«
Non, Athanase Ivanovitch, je n'ai point pris d'eau de noyau. »
Athanase Ivanovitch éprouva un remords. Il considérait Pulcherie Ivanovna, tandis qu'une larme perlait à sa paupière.
« Je vous demande, Athanase Ivanovitch, de remplir mes dernières volontés, » reprit Pulcherie Ivanovna. « J'entends un commentaire près de l'église.
qu'on me mette ma robe grise, vous savez, celle qui est ornée de fleurettes sur fond brun. Surtout ne me mettez pas ma robe de satin à rayures framboises. Une mort n'a plus besoin de parure. Tandis que vous, vous pourrez en faire une robe de chambre ou d'apparat pour recevoir convenablement les visites.
« Dieu sait ce que vous dites, Pulgéry Ivanovna, répétait Athanase Emilovitch. Il ne s'agit pas encore de mourir, à quoi bon vous faire part à l'avance ?»«
Non, Athanase Ivanovitch, je sais que ma mort approche. Mais ne vous chagrinez pas, mon sujet. Je suis vieille, j'ai bien assez vécu. Vous n'êtes plus jeune non plus. Nous nous reverrons bientôt dans l'autre monde. »
Mais Athanase Ivanovitch sanglotait comme un enfant.
« C'est un péché de pleurer, Athanase Ivanovitch. Ne pleurez pas, n'attirez point sur vous le courroux du Seigneur. Je ne regrette pas de mourir. Je ne regrette qu'une chose. » Et ici un profond soupir lui échappa. « Je regrette de ne pas savoir à qui vous confier, qui aura soin de vous lorsque je ne serai plus. Vous êtes comme un petit enfant, et qui vous sert doit vous aimer. »
Comme elle disait ces mots, il se peignit sur son visage une pitié si profonde, une affliction si désolée, que personne, je crois, n'aurait pu la regarder de sang-froid.
« Écoute, Doxy, dit-elle à la femme de chambre qu'elle avait fait appeler tout exprès.
Quand je serai morte, prends soin de ton maître comme de la prunelle de tes yeux, comme de ton propre enfant. Fais bien attention qu'on lui prépare les plats qu'il aime. Donne-lui toujours du linge et des vêtements bien propres. S'il vient des visites, habille-le comme il faut. Sans cela, il est bien capable de les recevoir dans sa vieille robe de chambre, car il commence à ne plus distinguer les jours de fête des jours ordinaires. Ne le perds pas des yeux. Doxy, je prierai pour toi dans l'autre monde, et Dieu te récompensera. N'oublie pas ce que je dis, Eudoxie. Tu es déjà vieille, tu n'as pas longtemps à vivre. Ne charge pas ton âme d'un péché. Si tu ne prends pas bien soin de lui, tu n'auras plus de bonheur en ce monde. Je supplierai moi-même notre Seigneur de ne point t'accorder une bonne fin. Tu seras malheureuse pour le restant de ta vie. Jamais tes enfants, jamais ta famille ne connaîtront la bénédiction du bon Dieu.
Pauvre vieille! Elle ne songeait alors ni à l'instant solennel qui l'attendait, ni à son âme, ni à la vie future. Elle ne songeait qu'au pauvre homme qui avait été le compagnon de sa vie entière et qu'il lui fallait maintenant abandonner. Avec une parfaite lucidité, elle régla toute chose de manière qu'Athanase Ivanovitch ne put se ressentir de son absence. Elle était tellement convaincue de sa fin prochaine. Elle avait si bien préparé son âme à cet événement qu'au bout de quelques jours, elle dut en effet s'aliter et refusa toute nourriture. Athanase Ivanovitch se montra plein d'attention. Il ne quittait plus le chevet de la malade.
« Ne voudriez-vous pas prendre quelque chose, Pulgéry Ivanovna ?» disait-il en la regardant dans les yeux avec inquiétude. Mais Pulkéry Ivanovna ne répondait rien. Finalement, elle remua les lèvres comme pour rompre ce long silence et exhala son dernier souffle. Athanase Ivanovitch était anéanti. L'événement le confondit à tel point qu'il ne versa pas même une larme. Il considérait le cadavre avec des yeux troubles. Le sens de la mort paraissait lui échapper. On étendit la morte sur une table, on l'habilla de la robe qu'elle avait indiquée, on lui croisa les bras sur la poitrine, on lui mit un cierge entre les doigts. Athanase Ivanovitch regardait faire avec une complète insensibilité. Des gens de toutes conditions envahirent bientôt l'enclos. On était venu de loin rendre les derniers devoirs. On dressa dans la cour de longues tables chargées de pâtés, de ratafia et du traditionnel gâteau de riz funéraire. Les visiteurs parlaient, pleuraient, contemplaient la défunte, évoquaient ses qualités, reportaient leurs regards sur Athanase Ivanovitch.
et il n'avait pour toutes ces choses qu'un regard hébété. On emporta enfin le corps, tout le monde se mit en route, il suivit le cortège. Le clergé avait revêtu ses plus beaux ornements, le soleil luisait, les nourrissons pleuraient dans les bras de leur mère, les alouettes chantaient, des marmots en chemise folâtraient sur le chemin. On plaça enfin le cercueil au-dessus de la tombe, on l'invita à s'approcher, à embrasser une dernière fois la défunte. Il s'approcha, l'embrassa, des larmes roulèrent dans ses yeux, mais c'étaient des larmes quasi insensibles. On descendit le cercueil, le prêtre jeta la première pelletée de terre, le diacre et les deux chantres entonnèrent un requiem dont les sons bas et traînants allaient se perdre dans le ciel pur, sans nuages. Les fossoyeurs prirent leurs pelles, et la terre eut bientôt rempli et recouvert la fosse. À ce moment, Athanase Ivanovitch s'avança. Tout le monde lui fit place, désireux de connaître son intention. Il leva les yeux, laissa errer autour de lui un regard troublé et dit « Mais vous l'avez déjà enterré, pourquoi ?» Il ne put achever sa phrase. Mais quand il fut de retour chez lui, quand il se trouva dans la chambre vide d'où l'on avait emporté jusqu'à la chaise de Pulcheria Ivanovna, il se prit à sangloter sans fin, à sangloter douloureusement, inconsolablement, tandis que des larmes s'échappaient à flots de ses yeux ternis. 5 années s'écoulèrent. Quel chagrin le temps n'emporte-t-il point? Quelle passion résiste à la lutte inégale qu'il lui livre? J'ai connu un homme dans la fleur de ses ans, doué d'un caractère vraiment élevé et des qualités les plus précieuses. Je l'ai connu en proie à une passion tendre, folle, exaltée, et pourtant noble. Et devant moi, presque sous mes yeux, l'objet de son amour, une douce créature, belle comme un ange, fut emportée par l'insatiable faucheuse. Mais je n'ai jamais vu pareil transport, angoisse aussi poignante, désespoir aussi frénétique. Je n'aurais jamais cru qu'un homme puisse créer un enfer de cette noirceur, un enfer où ne perce jamais la moindre lueur d'espérance. On gardait à vue le malheureux amant. On lui enleva tous les instruments dont il eût pu faire usage pour se détruire. Et au bout de 15 jours, surmontant soudain sa douleur, il se mit à rire, à plaisanter. On lui rendit la liberté, et il en profita pour s'acheter aussitôt un pistolet. Et voici qu'un jour, un coup de feu subit épouvante ses proches. On se précipite dans sa chambre. On le trouve par terre, le crâne fracassé. On eut l'heure de tomber sur un médecin dont le nom était alors sur toutes les lèvres. Et cet habile homme reconnut dans le malheureux quelques restes de vie et, à la surprise générale, parvint à le guérir. On redoubla de surveillance. On notait au désespéré jusqu'au couteau de table, jusqu'au moindre objet dont il eût pu se frapper. Eh bien, il trouva pourtant une nouvelle occasion de s'échapper et se jeta sous les roues d'une voiture. Il eut la jambe et le bras cassés, mais une fois de plus, on lui sauva la vie. 1 an plus tard, je le rencontrai dans un salon très fréquenté. Assis à une table de jeu, il annonçait d'une voix joyeuse en écartant une carte « Petite misère !» Tandis que, debout derrière lui, appuyé au dossier de sa chaise, une toute jeune femme, la sienne, jouait négligemment avec ses jetons. 5 années donc après la mort de Pulcheria Ivanovna, me trouvant dans ces parages, l'idée me vint d'aller sur Athanase Ivanovitch, de revoir ces lieux où j'avais jadis passé tant de bonnes heures, trop bien traités par la généreuse hôtesse. Quand j'approchais du manoir, oh, la maison me parut 2 fois plus vieille.
Les chaumines s'étaient tout à fait penchées sur le flanc. Leurs habitants avaient sans doute subi le même sort. La palissade était complètement détruite. Et je vis de mes propres yeux la cuisinière en arracher des pieux pour en chauffer son poêle, quand elle n'avait que deux pas de plus à faire pour atteindre un tas de fagots. Je gagnais tristement le perron. Les mêmes barbets, les mêmes matins, mais aveugles ou les pattes cassées, se mirent à aboyer en dressant leur queue frisée tout embroussaillée de chardon. Le vieillard vint à ma rencontre. Était-ce bien lui ? Bon, je le reconnus aussitôt, mais il paraissait deux fois plus courbé qu'auparavant. Il me reconnut aussi et m'accueillit avec un sourire d'autrefois. Je le suivis dans la maison. Tout y semblait dans le même état, mais j'eus au fait de remarquer je ne sais quel désordre, indice certain d'une absence. Bref, j'éprouvais cette sensation bizarre qui s'empare de nous en pénétrant pour la première fois dans le logis d'un veuf que nous n'avions jamais vu sans son inséparable compagne. Semblable angoisse vous étreint à la vue d'un infirme que l'on a toujours connu valide. La sollicitude de Pulcheria Ivanovna faisait défaut en tout. Un des couteaux que l'on mit sur la table n'avait point de manche. Les plats n'étaient plus accommodés avec la même perfection. Quant aux travaux des champs, je ne voulus même pas m'en informer et craignis même de donner un coup d'œil au commun. Quand nous prîmes place à table, une servante attacha une serviette sous le menton d'Athanase Ivanovitch. Elle fit bien, car il aurait sali toute sa robe de chambre. Je tâchais de le distraire, lui racontais les nouvelles. Il m'écoutait avec son immuable sourire, mais par moments, son regard devenait vide. Aucune pensée ne l'animait plus. Il porta à son nez, au lieu de le porter à sa bouche, plus d'une cuillerée de bouillie, et la servante devait alors guider sa main. Il y avait entre chaque plat de longs intervalles dans le service. Athanase Ivanovitch s'en apercevait lui-même et demandait « Mais pourquoi restons-tu si longtemps sans nous servir ?» Mais à travers une fente de la porte, je voyais bien que le galopin qui incombait ce soin s'en souciait fort peu et dormait sur son banc, la tête baissée. « C'est ce plat-ci, me dit Athanase Ivanovitch, quand on nous présenta des ramequins. « C'est ce plat-ci, continua-t-il. Je remarquai que sa voix se faisait tremblante et qu'une larme était prête à jaillir de ses yeux plombés, bien qu'il s'efforçât de la retenir. « C'est ce plat-ci que ma pauvre... » Et tout à coup, il fondit en larmes. Son bras levé retomba sur son assiette, qui culbuta, roula par terre, se brisa. La sauce le couvrit tout entier. Il demeurait assis, insensible. Insensible, il tenait sa cuillère. Et ses pleurs, comme une fontaine intarissable, coulaient, mais coulaient à flots sur la serviette qui le protégeait. « Mon Dieu !» me dis-je en le regardant. « 5 années ont passé. 5 années de cet universel exterminateur qu'est le temps. Et ce vieillard déjà glacé, ce vieillard à qui la vie semblait avoir épargné toute émotion forte, ne lui réservant que de longues séances dans un bon fauteuil, des anecdotes sans malice, des régales de poils de retapés et de poissons fumés, ce vieillard est encore déchiré par une affliction sans merci. Qui donc, de la passion de l'habitude, assure-nous le plus d'empire ? Ou peut-être nos désirs, nos ardeurs, nos ivresses ne sont-ils qu'un apanage de notre belle saison ? Peut-être notre seule jeunesse nous fait-elle croire ce tourbillon irrésistible ? Quoi qu'il en soit, toutes nos passions me parurent en ce moment de purs enfantillages, comparés à cette longue, à cette lente, à cette quasi-inconsciente habitude. Plusieurs fois, Athanase Ivanovitch s'efforça de prononcer le nom de la défunte, mais toujours au milieu du mot, son visage placide s'altérait convulsivement et ses sanglots d'enfant venait me frapper au cœur. Non, on se n'était point de ces larmes dont se montrent si prodigues les vieillards quand ils nous dépeignent leur triste position et toutes leurs infortunes. Ce n'étaient point non plus les pleurs faciles qu'ils versent après un verre de punch. Non, ces larmes-là coulaient d'elles-mêmes, sans que la volonté y fût pour rien. Elles débordaient d'un cœur déjà ulcéré par les pointes de la douleur. Athanase Ivanovitch ne survécut pas longtemps à ma visite. J'ai récemment appris qu'il n'était plus. Chose surprenante, certaines circonstances donnèrent à sa mort quelque ressemblance avec celle de Pulcheria Ivanovna. Il voulut un beau jour faire un tour dans son jardin. Alors qu'avec son insouciance habituelle, il marchait à pas lent le long d'une allée sans avoir aucune idée dans la tête, une étrange aventure lui advint. Il entendit soudain quelqu'un prononcer derrière lui, d'une voix assez distincte, « Athanase Ivanovitch ». Il se retourna. Personne n'était là. Il promena son regard de tous côtés, jusque dans les buissons, mais ne vit toujours personne. Le temps était serein, le ciel brillait. Il réfléchit un instant. Son visage parut s'animer et il finit par dire « Oh, c'est Pulcheria Ivanovna qui m'appelle. » Il vous est sans doute arrivé d'entendre une voix vous appeler par votre nom. À en croire les gens simples, c'est une âme qui se languit de vous et qui vous signifie votre arrêt de mort. J'ai toujours, je l'avoue, redouté cet appel mystérieux que j'ai ouï plus d'une fois dans mon enfance. C'était d'ordinaire par une belle journée de soleil. Pas une feuille ne remuait, un silence de mort planait. Les grillons même avaient cessé leur chant. Il n'y avait âme qui vive au jardin. Et, je l'avoue encore, la nuit la plus sinistre et la plus orageuse, toute la furie des éléments, me surprenant dans une forêt impraticable, m'aurait moins effrayé que cet horrible silence dans la sérénité de ce beau jour. Je me jetais à toutes jambes hors du jardin, éperdu, haletant, et parvenais seulement à me calmer quand la rencontre d'un être humain avait dissipé dans mon esprit l'épouvantable sensation de vide qui l'étreignait. Convaincu que la défunte l'avait appelé, Athanase Ivanovitch se soumit à cette idée avec une docilité d'enfant. Il se mit à tousser, à maigrir, à fondre comme un cierge, et s'éteignit enfin tout comme s'était éteint le cierge quand plus rien ne reste que puisse alimenter sa flamme débile. « Enterrez-moi auprès de Pulcheria Ivanovna, » dit-il. Et ce furent ses dernières paroles. Suivant son désir, on l'enterra près de l'église à côté de Pulcheria Ivanovna. La cérémonie attira moins de mots au monde, mais tout autant de petites gens et de mendiants. Cette fois, le manoir devint complètement vide. Intendant et Saroste emportèrent chez eux toutes les nippes, toutes les anticailles que la femme de char n'avait pas encore enlevées. Bientôt arriva, on ne sait d'où, l'héritier du domaine, un parent éloigné, qui avait eu le grade de lieutenant dans je ne sais quelle arme et qui ne rêvait que réforme. Il s'aperçut aussitôt que la propriété était tenue avec désordre et négligence. Il décida de remédier à cet abus et d'établir en toute chose l'ordre le plus parfait. À ses fins, il acheta une demi-douzaine de belles faucilles anglaises, fit apposer un numéro sur toutes les chaumières, bref, prit de si larges mesures qu'au bout de 6 mois, son bien fut mis sous tutelle. La sage tutelle, confiée à un ancien fonctionnaire et à un capitaine en retraite, dont l'uniforme avait souffert des intempéries, eut au fait d'exterminer la basse-cour, eux y compris. Les chaumières, qui penchaient déjà jusqu'au sol, s'effondrèrent pour de bon. Les paysans devinrent de francs ivrognes et prirent presque tous la clé des champs. Quant au propriétaire lui-même, qui d'ailleurs vivait en assez bons termes avec ses tuteurs et prenait le punch à leur compagnie, Il ne faisait dans sa terre que de rares et courts séjours. On peut encore le rencontrer dans toutes les foires de la petite Russie. Il s'informe minutieusement du prix des denrées qui ne se vendent qu'en gros, farine, chambre, miel, etc. Mais il ne fait emplette que de babioles telles que pierre à feu, cure-pipe et autres menus objets dont la valeur globale dépasse guère un rouble.